l'épître de Paul à Éphèse, au chapitre 1er et le verset 3. L'épître de Paul aux Éphésiens. Nous ferons deux lectures. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er et le verset 3. Éphésiens, chapitre 1er, le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Une seconde lecture au chapitre 6 et le verset 18. Chapitre 6 et le verset 18. Éphésiens chapitre 6 et le verset 18. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Amen. Je fais juste un rappel de l'épître de Paul aux Éphésiens. Cette épître se situe à l'été 62. On se souvient que Paul est en prison, il est à Rome. Il est emprisonné et il a dans son cœur le souci de toutes les églises qu'il a visitées. Vous savez, on se rappelle, il a fait 3 voyages. Et durant ces voyages, il a visité les églises, il a prêché l'évangile, il a établi des anciens sur les églises. Et au fur et à mesure, l'œuvre s'est construite, l'œuvre s'est faite. Et on se trouve là, l'été 62, il est en prison. Paul est déjà marqué dans son corps par tout ce qui a été fait, frappé dans son corps, persécuté, la faim, la soif, la fatigue. Il est là dans cette prison et il a le souci des églises. Et dans cette prison, il prie pour les églises. Et dans ce souci-là, il écrit cette lettre. C'est ce que l'on appelle une épître qui est circulaire, c'est-à-dire que de ses voyages, il a fait le tour de la Méditerranée. Et cette lettre devait passer par toutes les églises pour les encourager, pour les fortifier, pour les aider à tenir ferme dans leur foi et de rester attachés à Christ. Et cette épître, elle est divisée en deux parties. La première, du chapitre 1er au chapitre 3, Paul va exprimer, va synthétiser à peu près ce que Dieu a fait par Jésus-Christ. Il va leur rappeler l'essentiel du christianisme, c'est-à-dire l'œuvre de Christ. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus. C'est Jésus-Christ. L'épître, elle est centrée sur Jésus, sur l'œuvre qu'il a fait, lui. Et non pas par nos mérites, par nos œuvres, par quoi que ce soit, mais c'est par Jésus. Il le rappelle, il le martèle, il le répète souvent, du chapitre 1er au chapitre 3, c'est par Jésus-Christ. D'ailleurs, cet épître, on retrouve 120 fois la mention de « par Christ », « comme Christ », « pour Christ ». 120 fois, il martèle ses lecteurs. Il veut que ses lecteurs comprennent ce que Dieu a fait. Il présente aussi dans le chapitre 1er au chapitre 3 les privilèges que nous avons. Celui qui place sa foi en Jésus-Christ a des privilèges. On est enfant de Dieu. On reçoit le Saint-Esprit. On est régénéré, on est transformé. On ne reste plus la même personne. Des personnes diront, mais c'est mon caractère, je ne peux pas y faire autrement. Non, Dieu nous transforme par son esprit, à son image. L'œuvre de Christ en nous, c'est de ressembler à Jésus-Christ. On a ses privilèges. Ensuite, il passe du chapitre 3 au chapitre 6. Ces privilèges-là, on est conscient qu'on a des privilèges, mais elles nous amènent à de grandes responsabilités. On est chrétien, certes, mais on n'attend pas le retour de Jésus. On a des responsabilités. Chacun de nous, en tant que fils et fille de Dieu, avons des responsabilités. Ce que Dieu attend de nous. Nous avons des privilèges, certes, mais nous avons aussi des responsabilités. Et Paul va les développer du chapitre 3, chapitre 4 au chapitre 6. Il va développer, il va commencer au chapitre 4 par la maturité, à ne plus rester enfant, mais à devenir adulte. À maintenir l'unité de la foi, de la paix. dans une société maintenant où la société elle est égocentrique, centrée sur l'homme, où moi je fais ce que je veux, je dors à recevoir de personne. Paul, lui, met un action sur Jésus-Christ. C'est parce que lui est un avec le Père et le Saint-Esprit. Il nous encourage, nous, l'Église, à être un, à acquérir la maturité. Il va parler ensuite de la vie ancienne et la vie nouvelle dans le Seigneur. Je viens au Seigneur, je ne peux plus vivre comme j'étais auparavant. Je ne peux plus critiquer avec plaisir. Je ne peux plus mentir avec plaisir. Je ne peux plus faire des choses mauvaises. Mais je suis appelé à une vie nouvelle, à être transformé. Ma bouche est transformée, mon corps est transformé, mon comportement est transformé, mon caractère est transformé. Pour ressembler à qui ? À Jésus. C'est être comme Jésus, c'est aimer comme Jésus. C'est avoir son caractère. La vie nouvelle. Ensuite, il met un duel entre la lumière et les ténèbres. Maintenant, je suis dans la lumière. Je ne vis plus avec une vie cachée. Ma vie, elle est entière à Dieu, non pas physiquement. Mais corps, âme et esprit est donné à Jésus-Christ. Je ne vis plus avec le compromis. Ce n'est pas la superficialité, ce n'est pas mon look qui compte. C'est mon cœur. Mais qui va transparaître sur l'être extérieur, c'est-à-dire mon corps. Il va parler du mari et de l'épouse, de l'époux et de l'épouse, des nouvelles relations. Mais la norme, c'est comme Christ. Aimez Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il va parler de la relation enfant à parent. Mais ce matin, j'aimerais faire l'action. Mettre l'action sur la deuxième partie, c'est-à-dire au chapitre 6. Le chapitre 6 du verset 10 à 18. Vous vous souvenez, Paul va énumérer, il dit « Au reste, frères, fortifiez-vous dans la grâce toute-puissante. » Et il va énumérer toutes les armes de Dieu, l'armure spirituelle, la ceinture de vérité, le casque du salut, la cuirasse de justice. Et dans cette deuxième partie, ce que je nommerai « Ce que Dieu attend de nous », il énumère ses armes et il va terminer par le verset 18 où il dit « Mais en tout temps, priez en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, veillant à cela en toute persévérance et priant pour tous les saints. » Quand on lit ce texte, quand on lit le chapitre 6, les versets 10 à 18, on est frappé par l'armure. Vous savez, je ne sais pas si c'est dans l'être humain, mais on aime les armures, on est frappé par les armes, par les... Moi, la première fois que j'ai lu ce texte, je me suis dit, waouh, l'épée, l'armure, le casque, la cuirasse, les sandales, c'est extraordinaire. Mais on est frappé par ça. Mais quand on relit le texte de plus près, lorsqu'on va gratter en profondeur, on se rend compte que Paul va mettre l'accent sur le verset 18, la prière. Vous savez, quand il parle de la deuxième partie, là, au chapitre 4, au chapitre 6, quand il parle de toutes nos responsabilités, comment elles sont maintenues, nos responsabilités ? Par la prière. Comment je vais aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église ? Mais en priant, si je ne prie pas, je vais faire... Je ne peux pas aimer ma femme comme Christ a aimé, si ma vie de prière n'est pas à la norme, n'est pas mise à la norme, je ne mets pas la Bible, j'adapte pas la Bible à ma vie, mais j'adapte ma vie à la Bible, c'est la Bible la norme, c'est Christ la norme. Je vais prier, ma vie de prière doit aller de plus en plus en profondeur avec Dieu. Je sais qu'on a des emplois du temps chargés, je sais qu'on a des contextes différents, on a des vies différentes. Et c'est très compliqué d'avoir du temps pour Dieu. Je pourrais prendre l'exemple dans la Bible de tous ces hommes qui avaient des grandes responsabilités. Je peux prendre Daniel, qui avait de très grandes responsabilités au niveau du royaume. Mais qu'est-ce qu'il est dit de Daniel ? C'est qu'il priait trois fois par jour. Il prenait le temps de prier. Priez en tout temps. Priez en tout temps. De maintenir, ça ne veut pas dire que je vais prier constamment, mais c'est d'entretenir cette relation-là journalière, quotidienne avec Dieu. Je vais prier et ma prière va transformer ma vie, va transformer, je dirais même, mon entourage. La prière va changer l'atmosphère. Ma prière va agir puissamment sur mes contemporains, sur mes collègues de travail, sur ma famille, sur mon époux, sur mon épouse qui n'est pas convertie, sur mes enfants qui vivent une vie de débauche. Ma prière à Dieu, Dieu va entendre et va manifester sa puissance. Paul va mettre l'accent sur la nécessité de prier et de veiller à cela. Je peux prier constamment, mais si je ne veille pas, cela va être, je serai dans une situation de danger pour ma vie. Et la prière n'est pas réservée à un ministère, la prière n'est pas réservée aux anciens dans l'église, n'est pas réservée aux docteurs et aux prophètes, mais est pour chacun d'entre nous. L'Esprit de Christ vit en nous. L'exemple divin, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui priait. C'est lui qui prenait le temps, malgré la foule qui le pressait, malgré les besoins qui le pressaient. Prenez le temps. Qu'est-ce qu'il est dit dans l'évangile de Luc ? Luc nous relate beaucoup de détails sur Jésus qui se met à l'écart et qui prie. Ensuite, qui prend des disciples avec lui et qui va prier avec eux. Il y a la notion d'individualité. On va prier personnellement. Mais ce matin, j'aimerais mettre l'accent sur le collectif. Quand l'Église prie, des choses se passent. On n'a qu'à regarder les sources historiques qui nous relatent l'histoire de l'Église, depuis l'Église primitive jusqu'à nos jours, que Dieu, en réponse à la prière de l'Église, a fait de grandes choses. Une dame a prié pour que la France soit visitée, et c'est ce qui a été fait. Une femme a prié, mais des groupes de personnes ont prié pour la France. Et Et l'Évangile est arrivé et a fait cette œuvre. Priant tout le temps par l'Esprit, à être sensible à la voix de l'Esprit. La nécessité de prier, de veiller sans cesse. C'est notre vocation, mes frères et sœurs. C'est notre vocation de prier. Dieu nous appelle à la prière, à garder et à entretenir cette vie de prière. Vous savez, dans le même auteur, hein, c'est Paul qui écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 12 et le verset 12, quand il dit « Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans l'affliction, persévérant dans la prière. » Mais littéralement, ça veut dire « voué à la prière ». Nous sommes tous voués à la prière. C'est le même mot, vous savez, quand Jésus dira « Mettez-moi cette barque à part. » Mettez-moi cette barque à part. Mais quand il est question d'un objet ou d'une barque, c'est quelque chose qui est mis à part. Mais ce même mot, quand il est utilisé pour un homme ou une femme, c'est que cet homme et cette femme est consacré. Il est utile pour Jésus, pour la prière. Nous sommes voués à la prière, consacrés à la prière. C'est un rôle primordial, notre responsabilité. Ce que Dieu attend de nous, c'est que l'Église individuellement, mais collectivement prie. Un souci qu'on a remarqué, c'est que nos réunions de prière sont boycottées. Nos réunions de prière sur une église de 300, de 400 personnes. À la réunion de prière, on est une douzaine de personnes, on est une vingtaine de personnes. Alors que là, c'est là où le Seigneur déverse la bénédiction. Le collectif, lorsque des frères et sœurs prient ensemble, il se passe des choses. Je suis sûr que nous sommes une réponse à la prière d'un membre de la famille, d'un voisin. Mais je suis aussi sûr que c'est la réponse aussi de la prière de l'Église. Lorsque l'Église prie pour la ville, lorsque l'Église prie pour les autorités, lorsque l'Église prie pour qu'un frère, pour qu'un tel qui a une épouse qui est inconvertie, ou un époux qui est inconverti, ou un enfant qui s'est égaré loin de la voie de Dieu, je suis persuadé que Dieu répond à la prière. C'est notre responsabilité. Ce que Dieu attend de nous, de l'Église, c'est une Église qui prie. D'ailleurs, vous savez, quand Jésus était dans le temple, où il va chasser les marchands, ceux qui vendaient. Il dira, vous avez fait de la maison de mon père une cave de voleurs. Mais ma maison, je suis sûr que vous connaissez la suite. N'est-il pas écrit que ma maison sera appelée maison de prière? Lorsque l'Église prie pour des besoins spécifiques, Dieu répond à la prière. Vous vous souvenez, quand vous avez prié pour ma fille, pour la dernière, on ne savait plus quoi faire. L'Église a prié et Dieu a posé sa main. Et Dieu a guéri. Tellement guéri qu'il a fait beaucoup de bêtises. Mais Dieu a répondu à la prière. Mais je ne pense pas qu'on doit s'arrêter lorsque l'on ne voit pas l'exaucement de nos prières. Au contraire, il y a une patience. D'ailleurs, il dit, priez en tout temps, par l'Esprit, avec littéralement toute espérance. Moi, je vous pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire avec toute persévérance. Toute persévérance. C'est-à-dire de manière constante, régulière, même si nous ne voyons pas le fruit. Je suis conscient que chacun de nous vit des contextes difficiles. Certains d'entre nous sont malades depuis un long moment. Certains de nous en souffrent parce que notre épouse est inconvertie depuis déjà pas mal d'années. Et on se lasse, la lassitude gagne du terrain. Mais la Bible nous encourage parce que notre exemple, c'est Jésus. Je ne vais pas mettre l'exemple sur moi parce que l'exemple parfait, c'est Jésus. C'est lui qui va persévérer. Durant tout son ministère, jusqu'à la croix même, sur la croix même, il va prier. Sur la croix même, il va prier. L'évangile de Luc, j'aime beaucoup cet évangile parce qu'il relève, c'est le seul évangile où, lorsque l'évangile de Matthieu dit que Jésus prie son baptême, l'évangile de Luc dit, il pria. Vous savez, quand il reçoit la colombe, lorsqu'il ressort de l'eau, l'évangile de Matthieu relate juste que le Saint-Esprit est descendu sous la forme corporelle d'une colombe. Mais l'évangile de Luc dit, après avoir prié, la colombe descendit sur lui. Le choix des disciples. Matthieu dit, il en choisit 12, qu'il les nomma apôtres. Mais Luc dit, après avoir prié, avec un autre détail, toute la nuit, il en choisit 12. Tous les choix importants que Jésus a fait, il a fait dans la prière. Dans son ministère est marqué par la prière individuelle. Mais il va prendre Pierre, il va prendre Jean, il va prendre les disciples, il va les mettre à part, il va prier avec eux, il va aller dans le temple, il va prier de manière collective. C'est une erreur de se mettre à l'écart seul, de dire je vais prier à la maison tout seul. C'est bien, on prie à la maison tout seul, mais elle n'est pas complète. Parce que Dieu nous appelle à prier collectivement. L'Église est un corps. La main ne peut pas prier chez elle et le pied et le corps ici. Nous formons un corps qui tire son accroissement de Dieu et qui progresse. Dieu nous encourage à prier en tout temps parce que nos besoins sont grands, parce que les enjeux sont éternels, parce que nos contemporains, une fois la mort passée, il n'y a que deux destinations possibles. Donc les enjeux sont éternels. L'Église est appelée à vivre sa vocation, c'est-à-dire à prier, à intercéder pour nos contemporains, pour la ville d'Annecy, pour nos familles, pour nos proches, pour les communes aux alentours, pour la France. Dieu encourage l'Église à continuer à prier, à persévérer dans la prière, avec toute persévérance dans la prière, parce que Dieu va répondre, parce que Dieu va glorifier son nom à travers de nos prières. Si personne ne prie, qui priera? Un homme dira, priez comme si tout dépendait de vos prières. même quand cela devient difficile, même quand nous souffrons, même quand nous sommes dans les difficultés, Dieu nous encourage à prier. Et je vais marteler encore ce matin sur l'exemple parfait qui est Jésus-Christ. Des fois, c'est dur. C'est dur de prier. C'est dur quand on vit des choses difficiles. Quand on souffre dans son corps. Quand on passe par l'adversité. Quand on perd un être cher. C'est dur. Mais Dieu nous fortifie. Dieu nous donne la force. Et dans le collectif, lorsque l'Église se réunit, il y a là comme une main de Dieu sur nos vies. Qu'on n'aura pas forcément lorsqu'on est isolé et seul. Lorsque nous sommes rassemblés, comme le dit le psaume 133, c'est là où Dieu déverse sa bénédiction et la vie, dans le collectif. Les devants de Père, je prierai chez moi, je persévérerai dans la prière, mais je serai fortifié aussi lorsque je serai avec mes frères et avec mes sœurs, et lorsque nous allons persévérer jusqu'au bout. Et c'est lui qui nous comprend. À titre individuel, collectif, les croyants sont engagés dans ce combat par la prière. Délaissez la prière et vous verrez que dans le couple, ça sera compliqué. Délaissez la prière et avec la relation avec nos enfants seront difficiles. Relâchez la prière et vous verrez que le vieil homme n'aura aucun mal à faire surface. Délaissez la prière et les vieilles passions revenir. Délaissez la prière et vous verrez que le combat spirituel deviendra pour nous comme une aire de jeu, comme un parc où on irait s'amuser. Délaissez la prière nous amènerait tout droit à une vie stérile, à une vie de mort. Tu serais juste un chrétien portant de nom, mais l'essence même vitale disparaîtra, parce que la prière, elle me maintient dans le terrain de la foi. La prière, elle me maintient dans l'espoir que Dieu va toucher, que Dieu va transformer, que Dieu va agir puissamment. C'est par la prière que des pays difficiles se sont ouverts à l'Évangile. C'est par la prière que des hommes et des femmes durs de cœur, tels que Saul de Tarse, s'est ouvert à l'Évangile. C'est par la prière que nos contemporains, nos enfants viendront à Christ, feront l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, feront l'expérience de la croix, de ce qui est vital à leur vie. C'est par la prière. Délaissez la prière et vous verrez une église morte. Délaissez cette vie-là, c'est laisser place à quelque chose de routinier. On le remarque bien. Vous savez, quand on délaisse la prière, on se sent bizarre, on se sent pas bien. C'est ce sentiment qu'on n'est pas satisfait, ou il y a quelque chose qui manque. L'apôtre Paul, je terminerai, l'apôtre Paul souligne l'importance, parce que, vous savez, quand il dit au verset 18, faites toutes sortes de prières. Vous savez que tout revient 4 fois dans ce verset. Toutes sortes de prières. Avec toute persévérance. Pour tous les saints. Il souligne par ces tout l'importance que Paul accorde à la prière. Et il voudrait encourager les églises qu'il a fondées à maintenir cette vie de prière, individuelle, mais collective. Je ne dis pas que vous ne priez pas, ce n'est pas mon propos, mais que la Bible nous encourage à continuer. Et peut-être que si tu t'es arrêté, à reprendre le train et à reprendre cette vie de prière. Je ne te dis pas qu'il faut commencer par prier 2 heures par jour, non, mais petit à petit, progressivement, et ma vie de prière va augmentant. Lorsque ça a été dur, lorsque les terrains ont été durs, parce que les persécutions ont été dures, lorsque les terrains ont été fermés, les principaux pays ont été fermés. Ce qui est chose surprenante, c'est que le christianisme a percé. C'est que la vie de Christ a percé dans ces pays. Parce que c'était en réponse à la prière. C'est parce que l'Église priait pour. La France est dure, mais Dieu est tout puissant. Nos contemporains sont durs, mais Dieu est tout puissant. Croyez-vous qu'à l'époque où Néron était empereur de Rome, cela a été facile pour les disciples de Jésus-Christ? La persécution était forte. Les corps de ces fameux disciples étaient suspendus dans les bois, étaient suspendus sur les bois, sur les murs, pour persuader tout homme, toute femme de ne pas se convertir au christianisme. Vous pensez que c'était pas dur là? Il y avait tout un contexte, c'est sûr, il y avait la peur, il y avait la crainte, il y avait l'angoisse de... Mais l'évangile a percé. Alors que Rome essayait d'annihiler le christianisme, et le christianisme a pris son essor vraiment et a progressé. Et je terminerai par Dieu nous encourage vraiment à prier, à encore continuer, à progresser encore, à continuer coûte que coûte, à prier. Et vous verrez, et nous verrons que Dieu va manifester sa puissance. Dieu va vraiment manifester sa puissance, il va se glorifier dans ces situations-là. Je ne serais pas surpris que d'ici la décembre 2019, Dieu aura fait de grandes choses. Pourquoi attendre décembre? Même l'été, avant même l'été, Dieu aura fait de grandes choses. Si nous continuons à persévérer, individuellement, mais surtout, mais aussi collectivement, Dieu va bénir. Je propose que l'on prie ensemble. Seigneur, tu connais nos vies, tu connais les contextes de vie où nous sommes, Seigneur notre Dieu, et te demande encore de nous aider à maintenir, Seigneur, à prier en tout temps, par toutes sortes de prières. Avec toute persévérance, avec constance, Seigneur notre Dieu, avec assiduité, même si cela est difficile, même si physiquement je suis lassé, mais Seigneur notre Dieu, tu es celui qui me fortifie et qui me donne cette vigueur. Alors que mon être, alors que physiquement je suis fatigué, Seigneur, ta vigueur vient me relever, me fortifier afin que je puisse tenir, Seigneur, ma responsabilité, c'est-à-dire de prier. Seigneur notre Dieu, la responsabilité de l'Église encore, Seigneur, c'est de prier. Ce que tu attends de nous, Seigneur, c'est que nous prions encore, Seigneur mon Dieu, pour les besoins, parce qu'elles sont grands, parce que les enjeux sont éternels. Parce que, Seigneur mon Père, tu fais mieux, Seigneur notre Dieu, en réponse à la prière en 5 minutes, que lorsque nous attendons pendant une année ou 2 années. Seigneur, l'efficacité de la prière, Seigneur mon Père, elle est mieux, elle est avantageuse. Seigneur notre Dieu, aide-nous encore, Seigneur. Viens par ton esprit, Seigneur mon Père, vivifier encore, Seigneur, par nos esprits, nos âmes, comme des vases vides. Viens nous remplir encore, Seigneur, de cette vie. Seigneur, nous voulons être comme toi. Nous voulons encore, Seigneur, notre Dieu, notre Père, être conscients de ce combat spirituel et de maintenir encore, Seigneur mon Père, cette piété par la prière, de maintenir nos responsabilités par la prière. Seigneur, aide-moi, aide-nous, aide ton peuple encore, Seigneur mon Dieu, mon Roi.